compte pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Un roman historique du futur, c'est ainsi que Denis Villeneuve définit Dune. Son rêve d'adolescence qu'il a enfin pu réaliser sur un grand écran. Aurait-il brisé la malédiction de l'œuvre inadaptable? C'est la question posée ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un monument de la littérature de science-fiction. Dune de Frank Herbert, publié à partir de 1965. Une parabole sur la destruction de l'environnement, le fanatisme religieux, le danger des hommes providentiels, une anticipation féministe et tant d'autres choses. Bonjour Fabien Leroy.
Bonjour, merci de me recevoir.
Superviseur de la traduction de Dune avec Renaud Guimin, merci. Délaguer pour nous cette forêt de thèmes. Dune au cinéma, un film en soi. Bonjour Philippe Gedge.
Bonjour.
Pour le journal Le Point, vous revenez sur cette aventure de l'adaptation de Jodorowsky à Denis Villeneuve. Le cinéaste québécois sera aussi avec nous ce matin. Nous l'avons intercepté entre deux galaxies de promotion. Enfin, aux côtés de Dune, qui a explosé le box-office depuis sa sortie, Les Amours d'Anaïs, Le Genou d'Aed, Blue Bayou ou L'Origine du Monde. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
J'ai fait cette première partie en y mettant tout. J'en étais conscient. Alors, en tournant, je me disais, bon, si jamais ça s'arrête, maintenant, j'aurais assouvi une part du désir. C'était important pour moi parce que c'était trop précieux comme moment. C'est probablement un des beaux moments de cinéma dans ma vie, d'avoir la chance de porter ce roman à l'écran. Et je voulais pas gâcher mon plaisir, donc je me suis profondément amusé. J'ai tout mis dans le film.
La passion intacte d'un cinéaste, Denis Villeneuve, pour cette saga Dune de Frank Herbert, publiée, je le disais, à partir de 1965. Avant de revenir au cinéma, le cheminement de cette œuvre a toute une histoire, Fabien Leroy, et elle démarre même en 1959 avec cet article qu'Herbert doit écrire sur les dunes de Florence dans l'Oregon. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors Herbert était avant tout journaliste, et donc il a travaillé notamment avec des politiques qui, une fois, lui ont commissionné donc un rapport, un article sur ces dunes qui progressaient vers l'intérieur de l'Oregon, et il fallait peut-être trouver une solution. Il s'est plongé à corps perdu dans ses recherches, il s'est beaucoup documenté sur les milieux désertiques, comment freiner la progression du sable, et ça a dû pas mal gamberger dans sa tête et lui donner les premières idées pour Dune.
Oui, alors après, il a beaucoup lu, il a lu énormément de livres philosophiques, historiques, politiques, mythologiques, mathématiques, religieux, écologiques, et même Freud et Jung, Fabien Leroy.
Alors en effet, il a fait connaissance avec sa femme en 1949 d'un couple californien, Ralph et Irene Slattery, un couple de psychologues, qui, elle, était élève de Jung, carrément à Zurich. Et elle a pu donc l'initier un petit peu à la philosophie de Jung, aux archétypes, tout à fait, l'inconscient collectif qu'on retrouve beaucoup et dans le livre. Et le couple l'a aussi introduit au bouddhisme zen qu'on retrouve dans la partie du zen Zenzuni.
La femme d'Herbert est très importante.
Bien sûr, bien sûr. C'est elle qui gagne le pain pour la famille, ce qui n'est pas rien, qui lui libère du temps pour écrire. Et elle aussi était écrivaine et a dû mettre un petit peu sa carrière de côté. Donc en effet, on lui doit beaucoup.
Et elle va inspirer le côté un peu féminin et féministe de Dune.
Bien sûr, c'est elle qui va l'aider à repérer la personnalité féminine et à mieux écrire ses textes pour mieux la refléter.
Et maintenant, je vais vous demander un exercice pas très facile.
Bon courage.
Bon courage, ce serait de raconter en quelques mots le propos de Dune. Bien sûr, il n'y a pas qu'un volume, bien sûr, il y en a 6 en tout. Mais voilà, donnez un petit peu un synopsis.
Alors, je ne vous remercie pas pour cette question. Alors, on va parler de la planète Dune, peut-être.
À quelle époque on est ?
On est à peu près 25 000 ans après notre ère, en l'an 10191 du calendrier impérial, pour être précis.
Oui.
Et donc il y a cette planète Dune qui possède le seul écosystème qui produise l'épice. L'épice avec un grand E, c'est une substance qui permet de traverser l'espace très facilement, de prédire l'avenir et d'allonger la vie de manière assez phénoménale. Donc vous pouvez vous douter que c'est une ressource absolument essentielle qui s'arrache. Et donc au début du film Dune, tous les enjeux de pouvoir vont se cristalliser sur cette planète. La famille Atreide va reprendre la planète au vilain Harkonnen.
Qui lui livre pour un peu le massacrer plus tard.
Voilà, ce sont un peu les magouilles de l'empereur derrière tout ça.
Un complot.
Et cette famille Atreide a un héritier qui s'appelle Paul. On aurait pu commencer le résumé aussi avec lui, par ce jeune Paul. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce garçon ?
Alors, ce garçon n'aurait pas dû naître, parce que sa mère ne pouvait avoir qu'une fille, normalement, selon les ordres du Bene Gesserit, l'ordre religieux auquel elle appartient. Ouais. Elle a désobéi, elle a ce fils, et qui, bizarrement, correspond aux prédictions qu'on peut retrouver sur la planète Dune.
C'est l'élu.
C'est l'élu, voilà, le Mahdi.
Bonjour Matrix.
Qui va peut-être sauver le monde. La traduction de ça, ça va être quelque chose, parce que la lecture est compliquée. Il faut un glossaire qui existe à la fin du livre et qui ne sera pas dans le film dont on parlera plus tard. Mmh. Principaux écueils de la traduction, Fabien Leroy.
Alors, l'œuvre d'Herbert, en fait, emploie beaucoup de langues différentes. C'est vraiment un livre univers. Et donc, il ne faut pas faire d'incohérence, respecter la pensée de l'auteur au maximum. Et quand on pense que c'est environ 6000 pages, le cycle de Dune, il a épuisé deux traducteurs successifs.
Pourquoi ça fascine, pardon pour cette question très large, et pourquoi ça fascine toujours autant Dune?
Alors, avant tout, parce que c'est un chef-d'œuvre. Et donc, les chefs-d'œuvre ont cette vertu de fasciner plusieurs générations, chacun y trouve ce qu'il veut. Les thèmes aussi qui touchent vraiment à l'humain, au pouvoir, à la religion, à la psychologie.
À l'écologie.
Ce qui peut expliquer aussi la durabilité, en quelque sorte.
On avance dans le temps, plus c'est prégnant, en fait, non ?
Voilà, certains y voient le terrorisme actuel, alors que bon, ça n'existait pas à l'époque. Enfin, il a tellement bien analysé l'être humain que voilà, ça reste intemporel comme œuvre.
Dune au cinéma, Philippe Gage. Alors là, c'est une histoire. Je disais, c'est un film en soi. Il y a eu une tentative de Ridley Scott qui s'est finalement lancé dans Blade Runner.
Oui, Ridley Scott a essayé pendant quelques mois de travailler avec le producteur Dino De Laurentiis sur une adaptation de Dune vers la fin des années 70. Et en effet, ça tournait quand même très très court. Hein. Il est parti ensuite, en effet, sur Blade Runner, et c'est David Lynch qui a pris sa succession.
Alors, chronologiquement, on va commencer par le rêve de film de Jodorowsky. Jodorowsky qui rêvait de réaliser Dune à l'écran. Tiens, on va l'écouter, Jodo.
Je voulais faire un film qui donnerait aux gens, ceux qui à l'époque prenaient du LSD, les hallucinations que vous provoque cette drogue, mais sans les hallucinations. Je ne voulais pas qu'ils en prennent, mais je voulais en fabriquer les effets sur grand écran et que ce film, Dune, change la perception du grand public.
Voilà, l'épice, c'est un peu les champignons magiques.
Ça parlait totalement à Jodo, ça.
Oui. Donc, c'est une épopée qui était tuée dans l'œuf, Philippe Gage, Jodorowsky, en 1976. Vous écrivez que c'est l'un des films les plus fantasmés du cinéma, avec presque le Napoléon de Kubrick et Leningrad de Léon. C'est l'aventure d'un ratage total. On raconte un peu l'histoire, donc.
Oui, c'est au milieu des années 70. Alors la chronologie, c'est vers 74 à peu près, 75. Le producteur Michel Sédoux et sa société Camera One ont des contacts avec, près de contact avec Alejandro Jodorowsky, avec lequel d'ailleurs Sédoux a déjà travaillé sur La Montagne Sacrée notamment. Et les deux hommes envisage d'adapter ce Dune qui est déjà à l'époque réputé inadaptable, parce qu'il y a déjà eu une première tentative au tout début des années 70 par un certain Arthur P. Jacobs, je crois, si ouais. Je me rappelle bien de son nom, qui était le producteur de la saga de la planète des singes, et qui s'était cassé les dents sur l'adaptation. Et donc Jodorowsky et Michel Sédoux se disent que voilà, il y a vraiment matière à faire un très grand film de science-fiction.
Et un très long film de 10 à 12 heures.
Voilà. Alors, Jodorowsky n'a pas lu du tout Dune à l'époque. Il s'en fout complètement de Frank Herbert, de la science-fiction. Lui, tout ce qu'il voit, en fait, une fois qu'il a lu le roman, c'est qu'il y a matière à laisser libre cours à ses propres délires.
Ouais.
Et l'intuition géniale que quand même Alejandro Jodorowsky va avoir à l'époque, c'est de fédérer autour de lui, pour préparer ce Dune qu'il commence à fantasmer, une dream team de créateurs absolument incroyables qui vont ensuite être récupérés par
Hollywood. Imprimer toute la science-fiction des films. Alors, on peut parler un petit peu d'eux, on va parler de...
Oui, alors il y a le scénariste ou co-scénariste Dan O'Bannon,
voilà,
qui sera le futur... qui va finir cette aventure en pleine dépression, quasiment SDF oui, d'ailleurs, quand le projet va capoter. Et Dan O'Bannon va être sauvé vraiment en écrivant avec son ami Ron Chossett le scénario d'Alien qui va le sortir de l'ornière. En dehors de lui, il y a le designer Andrew D. Giger,
oui,
qui va concevoir énormément de design dont on va retrouver certaines traces dans le Alien de Ridley Scott. Il y a notre camarade français Moebius qui va, alors Moebius qui va vraiment littéralement dessiner le film, ce projet de film Dune, dans un book storyboard qui est depuis devenu légendaire qui est-ce que j'ai oublié, Chris Foss également qui est un autre dessinateur designer qui va lui écrire designer tous les vaisseaux spatiaux qu'on devait voir dans ce Dune qui n'a jamais vu le jour.
Alors il y a un casting incroyable, il y a Orson Welles, Mick Jagger et Dali. Mais il est très drôle Dali. Alors Dali il a des demandes extravagantes.
Ah ben là c'est les zinzins parlent aux zinzins. Ouais. C'est-à-dire que là Jodorowsky s'est dit, en fait l'idée de Jodorowsky, c'était de faire de ce Dune une sorte de coup, de geste artistique complètement dingo. Et il avait proposé le rôle de l'ampleur, en effet, à Dali. Dans le documentaire Jodorowsky Dune, d'ailleurs, c'est, je crois que c'est Amanda Lear qui était la muse de Dali et qui raconte très bien cette histoire. Et Dali, au début, veut pas. Et en fait, il fait traîner en longueur sa réponse. Et il accepte de prendre ce rôle-là à condition d'être payé...
5000 dollars par une minute à l'écran.
Exactement.
Une heure de tournage.
Ou par minute d'apparition à l'écran. Et il a des tas d'exigences complètement dingues. Il veut que son personnage, l'empereur, soit constamment filmé sur une cuvette de toilette, qui est bordée par des dauphins sculptés. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais finalement, les deux hommes finiront par se mettre d'accord. Et si le film avait abouti, on aurait eu Salvador Dali dans le rôle de l'empereur Padishah.
En revanche, il y a eu un documentaire très intéressant de Frank Pavlich qui raconte toute cette histoire.
Bah oui, parce que c'est vraiment oui, aujourd'hui le film, si ce film qui ne s'est jamais fait est aussi fantasmé, c'est que on avait là une équipe de dingo quoi, qui était prêt à révolutionner Hollywood et la science-fiction. Mais cette initiative a été en effet tuée dans l'œuf, c'est ce que raconte ce documentaire, parce que les studios que à l'époque Jodorowsky a été démarché avec Michel Sédoux, les studios ont pris peur quand ils ont vu la folie, la dinguerie de ce que voulait faire Jodo, qui envisageait un Dune de 12h, 14h selon les témoignages.
Fabien Leroy, vous auriez aimé voir ce film où il vous aurait fait peur ou...
Ah ben non, tout amateur de Dune aurait eu envie de le voir, bien sûr. Il y avait quand même, on n'a pas parlé non plus de Mick Jagger ou de Pink Floyd, enfin quand
Magma,
on parlait de Dream Team, c'était en effet de la dinguerie.
Là, il y avait une véritable intuition artistique de Jodorowsky, ça c'est indéniable.
Avant de parler du film de Lynch, un petit mot sur Star Wars quand même, Philip Gage, parce que de George Lucas, il a démarré l'écriture en 73 certes, mais il y a beaucoup de similitudes entre les deux films, notamment entre Paul Atreides et Luke Skywalker, la galaxie régie par un empereur, Dark Vador qui ressemble au terrible baron Harkonnen, il y a beaucoup de points communs.
Oui, et pourtant on a l'habitude de dire que en même temps Dune est un peu l'anti Star Wars parce que c'est vrai que c'est quand même à l'arrivée deux œuvres que ça soit les films ou entre le livre et le film de Lucas qui dans le ton et dans le traitement du bien contre le mal n'ont absolument rien à voir. On a une dimension beaucoup plus divertissante qui prend le pas quand même sur tous les symboles mythologiques qui sont bien présents dans la Guerre des Étoiles, mais en général on dit souvent que donc la Guerre des Étoiles est l'anti-Dune, mais oui, Paul Atreides c'est Luke Skywalker, l'épreuve du Gomme Jabbar dans Dune, on la retrouve lors de la scène dans l'Empire contre-attaque lorsque Luke Skywalker entre dans cette grotte où il doit se confronter avec le côté obscur de la force. Force. Voilà, il y a des planètes, et il y a la création d'un univers, il y a la création d'un monde. C'est évident que Lucas a dû s'inspirer de Herbert.
Oui, je pensais aussi à la planète Tatooine, planète des sables, dans Star Wars, qui fait penser à Dune très très fort.
Et puis arrive David Lynch.
Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez donc que nous sommes en l'an 10191. En ce temps, la substance la plus précieuse de l'univers est le mélange, l'épice. L'épice accroît la longévité. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune.
Ce ne serait pas juste de dire que Dune a été un cauchemar total. Mais peut-être à 75% un cauchemar. Et la raison, c'est que je n'avais pas le final cut, le droit de regard sur le montage final. J'ai passé de si bons moments sur le tournage à Mexico avec une super équipe, de grands acteurs, c'était magnifique. Mais si vous n'avez pas le final cut, et je le savais déjà, alors pourquoi je l'ai fait? Je ne sais pas. Mais quand vous n'avez pas ce final cut, cette liberté créative totale, vous restez debout, prêt à mourir, prêt à vivre cette mort. Et pour mourir, je suis vraiment mort. Et quand vous connaissez un échec pareil, il n'y a pas d'autre moyen de vous en sortir que par le haut, alors en un sens, c'est libérateur. C'est beau.
Dune, le chef-d'œuvre de Frank Herbert, vient enfin d'être porté à l'écran. Dino De Laurentiis se présente Dune, un monde au-delà de votre univers, au-delà de votre imagination. Après Elephant Man, Dune, le nouveau film de David Lynch.
Oui, quand le producteur Dino De Laurentiis, qui a acquis les droits de Dune, appelle David Lynch, et il a déjà réalisé Eraserhead et eu un gros succès avec Elephant Man, Lynch ne comprend pas le titre au téléphone, il pense à Dune, il n'a jamais lu Dune, Philippe
Cage. Ben oui, encore un qui n'a pas lu Dune et qui se fiche complètement de Frank Herbert. Et là, ça va porter pas mal, je pense, préjudice au film. Et en effet, c'est un choix a priori complètement incongru. Et finalement, David Lynch va accepter, je pense, parce qu'il sait que à l'époque, il a pas mal de certains de ses projets qui n'arrivent pas à monter. Et je pense qu'il se dit que s'il accepte ce Dune-là avec Dino De Laurentiis, il pourra plus tard monter d'autres films en cas de succès avec lui. Donc c'est vraiment pour lui, Dune est un moyen et absolument pas une fin. On est dans un cas qui n'a absolument rien à voir avec ce que va faire Denis Villeneuve plus tard, pour qui Dune était vraiment un passion project, comme disent les Américains.
Dans le MOOC, tout sur Dune va raconter ce tournage dans nettoyer le sable, la tempête, la maladie, les clashs, les accidents. Il a eu que des épreuves, en fait. Et en plus, après, au montage, bien sûr, où il a été
raccourci. Oui, bah, c'est vraiment un tournage dans la grande tradition des tournages catastrophes, comme dont Hollywood peut avoir le secret. Et en effet, bon, là, dans le très beau son qu'on a entendu, il dit que le tournage était une très belle expérience pour lui, mais ils ont quand même énormément galéré dans ces studios mexicains de Churubusco, entre, en effet, les intempéries dès le début du tournage, ce sable qu'il fallait à chaque fois rebalayer pour qu'il soit blanc comme neige, c'est impeccable, les maladies, les intoxications alimentaires, les douanes mexicaines qui bloquaient des caméras que l'équipe attendait depuis Los Angeles. Et puis, ce que dit Rafaela De Laurentiis, que j'ai pu interviewer aussi,
très bonne interview.
La fille de Dino De Laurentiis, qui était à la production exécutive de ce Dune de David Lynch, il y avait aussi le fait que David Lynch n'avait aucune expérience d'une production de cette ampleur, et comme David Lynch, c'est un peintre, il se considère lui-même comme un peintre plus que comme un cinéaste, comme un metteur en scène, il voulait composer des tableaux, et il prenait un temps fou à faire un plan dans ce désert avec toutes ces centaines de figurants. Voilà, Rafaela De Laurentiis, elle était à côté, elle voyait l'heure qui tournait et les gens qu'il fallait payer à l'heure. Il y a eu plusieurs clashs entre lui et Rafaela pendant ce tournage. Donc vraiment, tout s'est accumulé pendant le tournage pour compliquer la vie de David Lynch sur Dune.
Alors Dune, inadaptable, peut-être pas, grâce à ce cinéaste québécois Denis Villeneuve, qui a eu l'intelligence, en dehors des grandes qualités du film, de n'adapter que la première partie du premier livre, en pariant sur l'avenir.
Alors oui, apparemment ça lui a été un petit peu imposé quand même par le studio.
Mais c'était le gage de réaliser la suite.
Voilà, exactement. Le Blade Runner 2049 que Denis Villeneuve a réalisé juste avant, n'a pas réalisé le box-office qu'on attendait de lui, et du coup Warner a pris un peu peur, c'est ce que Denis Villeneuve l'a raconté il y a pas très longtemps dans la presse québécoise, et donc finalement Warner lui a dit très bien, on fait Dune, mais tu réaliseras pas les deux parties, tu ne réaliseras que la première, on va attendre qu'elle marche pour faire la deuxième.
On écoute Denis Villeneuve.
Il se passe quelque chose en moi, quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus.
Qu'est-ce que tu as vu?
Une croisade se prépare.
Tu rêves souvent de choses qui se réalisent, telles que tu les avais vues?
Oui.
À partir de quand vous vous êtes senti légitime pour adapter Dune?
On pourrait presque parler d'accidents dans la mesure... c'est une accumulation d'accidents qui ont fait que j'ai pu arriver à faire ce film. C'est-à-dire que quand j'ai lu le roman à l'époque... Je me souviens d'avoir été sidéré, fasciné par le roman. Et adolescent, déjà, je rêvais d'une adaptation. C'est-à-dire quand j'avais commencé à faire des storyboards, on réfléchissait à comment on pourrait amener ça à l'écran. Et puis c'est un rêve qui est passé, que j'ai mis de côté, évidemment, parce que c'était hors d'atteinte pour moi à l'époque. Mais au fil du temps, bon, j'ai commencé à travailler à Los Angeles et j'ai commencé à acquérir des compétences techniques pour pouvoir m'attaquer à un projet de cette ampleur. J'aurais pas osé mentionner que je voulais faire Dune il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est-à-dire que c'est juste au fil des projets, j'ai senti que je commençais à avoir les reins assez solides pour porter un projet comme ça, et je m'y suis attaqué maintenant parce que je sentais justement que j'avais la capacité technique de le faire.
Oui, puis votre background vous a aidé, parce que par exemple, il y a eu le passage d'incendie qui était comme une tragédie grecque, qui pourrait se rapprocher même de cette tragédie-là de Dune. Il y a eu ces films de science-fiction, du futur. Tout ça vous a amené, finalement, c'était comme une préparation à Dune, tous ces films.
C'est pas faux. Tous les films sont des vases communicants, en quelque sorte, et même si j'essaie à chaque fois d'approcher le cinéma de façon différente, tous ces films me ressemblent terriblement, et entre eux ils communiquent, donc oui, c'est vrai de dire qu'il y a de l'incendie dans Dune, il y a du Enemy, il y a la violence de Prisoners, de Sicario, par rapport aux rêves, il y a tous des éléments qui seront en communication avec mes autres films, ouais.
Autre challenge, défi énorme, c'est de rendre cette histoire lisible, compréhensible pour tout le monde.
Tout à fait, c'était là le grand défi pour moi, c'est-à-dire que c'était pas le défi n'était pas technique, le défi était de trouver cet équilibre entre la quantité d'informations qui était nécessaire pour un public non averti, qui ne connaissait pas le roman, et les aficionados, les gens qui étaient les maniaques du roman, qui, eux, retrouvent les couleurs, les sensations, les odeurs, les idées, la poésie du roman, la force du roman, qui trouvent justement sa puissance dans les détails. Et c'est pour ça, une des raisons pour que j'ai proposé de le faire en deux parties, c'est que je trouvais que c'était impossible justement de rendre grâce au roman, à sa complexité, mais à sa richesse en seulement 2h30. C'était pas possible.
Mais les fans, c'est une pression énorme quand même, hein. Vous êtes aficionados, les fans vous attendent au tournant. Est-ce que vous pensez à eux quand vous écrivez, quand vous réalisez?
C'est tout simple. Je pense pas à eux, je pense à moi. C'est-à-dire que j'ai fait ce film pour moi. Je suis un maniaque de Dune. Non, mais j'ai été un maniaque. Je veux dire, j'ai eu une adolescence, moi, les yeux rivés dans des livres, et Dune était un de mes romans préférés. Et donc, j'avais ma manière de faire le film, ça a été de me remettre en contact avec cet adolescent que j'ai été, qui était dur, qui était abrasif, qui était extrêmement exigeant, qui était un peu totalitaire. C'est d'être en relation avec cet espace-là en moi qui appartient au passé. Ça a été ça qui était le défi, c'était d'essayer de satisfaire cette
d'être fidèle à la passion de l'adolescent.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens quand j'avais parlé avec Hans Zimmer, le compositeur, c'est un des premiers avec qui j'ai commencé à parler de cette adaptation. Il m'a regardé dans les yeux et il dit, tu crois pas que c'est un peu dangereux d'essayer de porter à l'écran tes plus vieux rêves comme ça? Est-ce que c'est parce que ça peut juste être décevant? Je veux dire, est-ce que tu penses que... Et j'étais... C'était là le risque. C'est la douleur qui peut arriver si on réussit pas. C'est nécessairement, c'est un processus où il y aura des déceptions parce qu'on peut pas arriver à combler ce désir-là. C'était ça. Donc, les fans Oui, j'étais en relation au quotidien, c'est-à-dire à chaque fois que j'avais l'œil dans la caméra, j'étais en relation avec cet espace-là. Donc, mon plus grand défi, c'était pas eux, je dirais, dans la mesure où c'était plus d'être sûr que quelqu'un qui a pas lu le roman s'y retrouve.
Vous avez voulu faire quelque chose de physique, de sensuel, essayer le plus possible d'éviter le virtuel. Ça aussi, c'est un défi à imposer à proposer à un studio.
Oui, c'est-à-dire que c'est là que les batailles commencent. Ouais. Quand on fait un film, c'est une guerre. Et il y a des batailles qu'on décide qu'on ne va pas perdre. Et une qui était fondamentale pour moi, qui était non négociable, c'était cette idée de tourner le plus possible le film dans des environnements naturels. Je veux dire...
Acteurs aient les pieds dans le sable, par exemple.
Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on aurait pu... C'est un film qui aurait pu être tourné complètement en studio, mais je dis pas que c'est bien ou mal. Je veux dire, c'est ma manière de travailler à moi. Je veux dire, il y a toutes sortes de façons de faire des films. Il y a des gens qui sont à l'aise de faire des films dans le monde virtuel et qui font des beaux films. Moi, je suis pas capable. Moi, ça me tue l'esprit. Je veux dire, la création, j'ai besoin d'être en contact avec la réalité. Je trouve que quand on est dans des vrais décors, quand la lumière tombe sur une table, c'est là que les idées de cinéma, quand le comédien bouge dans l'espace, il y a quelque chose, j'ai besoin. Je pense que pour les comédiens, c'est fondamental. Je pense que pour moi et pour le directeur de la photographie, j'ai besoin de conserver un espace, et ça vient probablement du fait que je suis né dans le documentaire. J'ai besoin, autant un film comme ça est extrêmement préparé au millimètre près, j'ai besoin d'avoir un espace de liberté au moment du tournage, au moment même de la prise de vue, où je peux modifier les choses avec l'inspiration du moment. C'est fondamental pour moi. C'est au cœur même de ma créativité. Donc, je serais incapable de tourner un film dans un espace virtuel. L'écologie est au centre du roman. Donc, pour moi, j'avais envie... de cette sensualité-là, j'avais envie de cette proximité, de cette immersion, de rendre... Pour moi, la nature est
sacré. Vous le dites dans l'introduction du livre, c'est sacré.
Oui, oui, tout à fait. Je trouve que Frank Herbert réinsère cette notion de sacré dans notre rapport à la nature, que je pense qu'est fondamentale. À savoir, quand je dis sacré, c'est une notion de respect, que la nature conserve une part de mystère, qu'on n'est pas encore capable d'expliquer, qu'on est encore à un tout début de la compréhension de ce qui nous entoure. Et ça commande un respect. Il y a quelque chose là que je trouvais fondamental et que je voulais que le film soit plus réaliste et naturel possible. Donc voilà.
Tout comme le héros qui était presque un anti-héros, vous avez fait de Chalamet comme une figure romantique qui pourrait sortir d'un roman de Emily Brontë.
Mais la chose est que Dune est pour moi est comme un roman historique du futur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a envoyé un historien avec un time machine dans le temps qui revient avec ce roman. Il nous a écrit l'histoire de ce qui va se passer. Et il y a ce contraste que je trouve très magnifique qui est présent encore dans le roman. Toutes les idées qui sont du film viennent du roman. Là. Je veux dire, j'ai rien inventé. Je veux dire, j'ai essayé d'être le plus près possible de l'esprit du roman.
Gloire à la femme aussi dans Dune.
Quand Eric Roth, le scénariste qui s'est attaqué en tout premier lieu à l'adaptation, notre tout premier meeting, il m'a demandé s'il y avait un aspect du roman sur lequel tu voudrais que je focus. Ça serait quoi la clé pour toi pour ouvrir le roman? Puis je lui ai dit, les femmes. Je pense qu'il y a dans cette idée des Bene Gesserit, de cette congrégation religieuse qui dirige l'humanité, qui sont vraiment les maîtres, qui supervisent la politique en général. Et alors que, bon, il y a toutes ces familles, puis ces combattants qui sont en surface, eux, ils sont dans le véritable courant et que c'est eux vraiment qui dirigent l'humanité. Il y a cette espèce de sagesse, de force, toute cette culture Bene Gesserit que je trouve extrêmement riche, qui est pour moi qui est au cœur du roman et qui s'incarne dans le personnage de la mère de Paul, Dame Jessica, qui est l'instigatrice de l'histoire. C'est à cause d'elle et elle va être à côté de Paul tout au long de son aventure. Et le fait qu'on c'est quand même assez singulier qu'on suive un héros qui est en lien avec sa mère tout le long du... Je trouve ça, c'est là le cœur du roman pour moi et j'ai mis ça de l'avant. Frank Herbert avait des élans féministes et pour moi, il y avait une force là que j'ai voulu embrasser. Ouais.
Vous l'avez beaucoup rêvé, ce film. Est-ce que le film qui est là maintenant correspond à celui de vos rêves?
En partie. C'est-à-dire qu'il serait faux de dire que le film est exactement parce que j'ai dû adapter, c'est-à-dire j'ai dû transformer, pour faire en sorte que le film puisse être reçu par un public qui n'a pas lu le roman. Il a fallu que je fasse, que je le transforme un peu. Donc, il y a certains éléments, je dirais, dans l'introduction qui sont un peu différents de ce que j'aurais fait si tout le monde sur la planète avait lu le roman. Mais sinon, en très, très grande partie, et c'est ces moments-là qui me touchent le plus, Il y a plusieurs moments dans le film qui sont douloureusement proches de ce que j'avais imaginé.
Ma planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ? Paul.
Fabien Leroy, est-ce que c'est parce que Villeneuve a tant aimé Dune qu'il a su si bien l'adapter finalement ?
On a dit tout à l'heure que les deux autres réalisateurs, Lynch et Jodo, ne l'avaient pas lu en fait avant de s'attaquer au projet.
Ouais.
Et là, on le sent en effet tout de suite hein, qu'il a lu, qu'il a adoré. On voit les yeux de l'enfant ravi.
Ouais.
Et il arrive très très bien à le transmettre au public et les connaisseurs de l'œuvre et ceux qui ne l'ont jamais lu, je pense, trouveront leur compte dedans.
Oui, Philippe Gage, en fait, le film est romantique, poétique, à la fois c'est un grand film d'action et c'est un grand film intimiste.
Oui, c'est ça qui marque dans une production de cette ampleur-là, quoi. C'est qu'il y a une cohabitation entre des scènes à l'échelle complètement démesurée. Il y a au moins trois très grandes scènes spectaculaires dans le film et il y a des respirations intimistes. Des scènes de dialogue. D'ailleurs, dès ces 5-6 premières minutes, le film déroule une scène de dialogue entre Paul et sa mère en train de prendre le petit déjeuner.
Oui.
Enfin, on serait presque chez Bergman, quoi. C'est, voilà, sauf que c'est dans un futur très lointain. Et en effet, Denis Villeneuve a réussi ça. Quoi que l'on reproche au film, parce que le film fait pas que des heureux, quoi que l'on reproche au film, Denis Villeneuve a réussi, je trouve, cet alliage entre une très très grande ambition visuelle, des canons de spectacle hollywoodien et une ambition une ambition d'auteur et un vrai drame familial. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, il y a beaucoup de voix off, je veux dire de pensées intimes que Lynch avait transformé en voix off.
Ouais, ça marchait pas,
mais
du
que
tout,
Villeneuve transforme en cinéma en fait. Ce qu'il ressente, eh ben Villeneuve le film, non?
Oui, bah Villeneuve est vraiment un formaliste, hein, comme on dit. C'est un cinéaste pour lequel la transcription visuelle des idées de cinéma est fondamentale. Et en effet, il a pris le parti avec ses deux scénaristes, Eric Ross et John Spaes, d'évacuer complètement ce que Lynch lui avait gardé dans son film, à savoir le fait de faire dire en voix off les pensées des personnages. Et ces pensées, il les traduit en effet par des plans majestueux soit des plans incroyables des sables d'Arrakis, ouais, pendant que Paul a ses visions et ça fonctionne beaucoup plus. On ressent en effet une mélancolie, une sorte de spleen du personnage.
Ouais.
Ce dispositif-là marche beaucoup plus que ce que Lynch avait choisi.
Fabien Leroy, est-ce que le Paul du roman ressemble au Paul du film qui est Chalamet, qui est un garçon nommé menu, adolescent, fragile, anti-héros?
Alors je pense que chaque lecteur a un petit peu son idée de Paul.
Ouais.
Et moi j'ai été personnellement bluffé par Timothée Chalamet. Je trouve qu'il a bien porté le film, le personnage, il le maîtrisait avec ses doutes, son côté anti-héros en effet qu'il assume totalement. Il a pas demandé à être l'élu.
Mais c'est comme ça dans le roman initial.
Oui, oui.
Il y a cette fragilité, il y a ce doute permanent de...
Oui, et puis il y a l'inexorable destin qui s'abat sur lui dès sa naissance. Il en est victime, il naît victime, et il va arriver à se lever, à se construire malgré ça.
Villeneuve n'a pas exagéré la relation mère-fils, parce qu'elle est extrêmement importante, comme dans le roman.
Alors c'est peut-être le personnage de la mère de Jessica qui a en effet un parti pris pour la montrer comme mère plutôt que comme sœur du Bene Gesserit.
Ouais.
Normalement elle est très froide, très glaciale, elle utilise la voix. Et là je trouve que dans sa relation avec Paul elle est beaucoup plus maternelle, ce qui est un parti pris mais très réussi qui va avec le reste.
Philippe Gage, pourquoi ce film doit marcher?
Film doit marcher, oui, ok. C'est pas assez clair comme ça. Non, bien sûr qu'il doit marcher. il s'agit pas de lancer une injonction évidemment au spectateur, mais ça serait bien qu'il marche parce que
ben on va voir la suite.
C'est ça. Déjà d'une part.
Ben, d'ailleurs, oui, ce qui est part importante.
C'est
même
très important. En effet, il y a d'ailleurs on voit sur Twitter beaucoup de spectateurs qui ont vu le film depuis mercredi et qui disent qui invitent les autres gens à aller voir le film parce que on veut voir la suite. Oui. Mais au-delà du destin de la franchise elle-même au cinéma et du fait qu'on aimerait voir ce qui va arriver ensuite à Paul et à toute cette saga, il y a vraiment un signal que le public, je pense, doit envoyer au studio américain. Et ce signal, c'est on a envie aussi de blockbusters un peu plus singuliers qui appartiennent à leurs réalisateurs. Oui. Et c'est le cas pour Dune. Encore une fois, qu'on aime ou pas ce film, il est absolument incontestable que Dune est l'œuvre. C'est un blockbuster d'auteur, c'est l'œuvre de Denis Villeneuve, qui a vraiment été un général sur ce film, qui a fédéré autour de lui des talents complètement passionnés. Et à l'image, ça se voit, y compris dans le design des effets spéciaux, qui tranche complètement avec ce qu'on voit dans la plupart des blockbusters qu'on nous a infligés au fil de cette décennie 2010 qui s'est achevée. Et il y a vraiment une singularité, une originalité qui, pour moi, je pense, doit être sanctionnée positivement par le public et qui peut décider vraiment de l'avenir de la façon dont on va faire les blockbusters à Hollywood.
Dune est sorti mercredi. Vous restez avec nous, Fabien Leroy, Philippe Guedj, dont on retrouve l'article dans le dernier exemplaire du Point et aussi le Point .fr, et également dans ce MOOC Tout sur Dune. On se retrouve pour les sorties après Woodkid Highway. Que Dune qui est sortie cette semaine. Il y a aussi L'Origine du Monde de Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karine Viard, Vincent Macken, Nicole Garcia. Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Sa femme Valérie se tourne alors vers Margot, sa coach de vie, un peu gourou, très connectée aux forces occultes. Elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime. C'était une pièce de théâtre de Sébastien Thierry. Lafitte voulait faire un drame qui fasse rire. Est-ce que c'est réussi, Laurent? J'ai pas l'impression.
C'est un drame. Donc le pitch, hein, je vais jusqu'au bout, c'est le cœur d'un homme s'arrête. Pour le relancer, il doit photographier L'origine du monde selon Courbet, le vagin de sa mère, si vous préférez. Et donc, et quoi? À partir du moment où on a cette situation de départ, on se dit quelqu'un d'intelligent va la prendre pour l'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai dans ma tête pour que il m'arrive un jour de penser que je puisse photographier le vagin de ma mère? Ça, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que Laurent Lafitte s'arrête avant le questionnement. Donc, ça, il s'arrête au stade anal, hein, d'un point de vue purement freudien. Le malaise chez le spectateur grandit d'autant plus que le réceptacle de ce spectacle à venir, c'est quand même Hélène Vincent, immense comédienne de théâtre. Et Lafitte ne recule devant rien, jusque à faire un suspense sur la photo du vagin de sa mère, qui est prise forcément sur un polaroïd. C'est-à-dire qu'il nous met, nous, dans la situation spectateur, d'attendre le développement sous nos yeux d'un polaroïd. C'est quand même d'une perversion, d'une perversité rare, et on n'a pas envie de voir ça. Enfin, moi, je n'ai pas envie de voir ça. Alors, on n'a pas envie forcément de s'imposer la psychanalyse de Laurent Lafitte, psychanalyse sauvage. Il y a certainement des limites à la vulgarité. Elles sont largement dépassées.
Les amours d'Anaïs de Charline Bourgeois-Taquet, c'est l'histoire d'une femme qui s'agite, dit le synopsis, c'est le moins qu'on puisse dire. Tant la présentation d'Anaïs est hystérique, agitée, pseudo-portrait de femme moderne, une énergie, un rythme épuisant et surtout artificiel. Et puis commence un deuxième film qui va réparer le premier. La rencontre d'Anaïs avec la femme de son amant, c'est Valeria Bruni-Tedeschi, une femme écrivain, mature, posée et qui va réveiller un désir authentique chez Anaïs, calmer son pas, son jeu, sa frivolité. Oui, heureusement, le film se rapproche de ces deux merveilleuses actrices réunies dans une joute verbale et amoureuse, et profond, émouvant, et ça vous ferait presque oublier ce préambule exaspérant.
Oui, je suis assez d'accord avec cette façon de dire qu'il y a deux films en un, et que le premier n'est pas forcément le plus réussi des deux, bien au contraire. Le tout venant d'un court-métrage qui était très très réussi, qui s'appelait Pauline a servi, avec Anaïs de Moustier. Et je crois qu'il faut insister sur ce que vous disiez, c'est-à-dire sur l'exceptionnel casting de Moustier plus Bruni-Tedeschi, égale un régal parfait, quoi.
Ça, ouais, c'est dans évident. Un rôle différent d'habitude en plus.
Oui,
ouais.
Oui, c'est vrai.
Blue Bayou de Justine Chon. Le film évoque à travers le personnage d'Antonio Leblanc, incarné par le réalisateur, le sort de ses enfants de Corée du Sud adoptés par les Américains et qui, une fois devenus adultes, sont expulsés des USA. Un sujet sociétal, un mélo assumé. Mais pourquoi, d'une situation déjà dramatique, un homme doit quitter femme et enfant, ajouter du pathos, notamment cette rencontre avec une femme cancéreuse, ou forcer le trait avec ce flic caricatural qui va le dénoncer? Dommage, parce que le réalisateur ne s'est pas fait assez confiance, pourtant son jeu est fantasque et attachant, de même que ses relations avec la petite fille, et ça aurait été bien suffisant pour ses enjeux dramatiques.
On peut se demander si le film est quand même pas sponsorisé en secret par un fabricant de mouchoirs jetables, quoi. C'est-à-dire qu'il faut plusieurs boîtes, hein, pour voir le film, sinon on lance des larmes à côté des autres spectateurs, que ça devient incroyable d'accumulation de pathos et de pathologie. Donc ça, c'est quand même très très malaisant, et au fond, on se sent, nous spectateurs, enfin moi je me suis senti pris en otage, effectivement, par tant de nausées bienveillantes.
Et pourtant, le sujet tient vraiment à cœur réalisateur.
C'est un vrai sujet, l'immigration, ouais, bien sûr, l'adoption, oui, bien sûr.
Il y a des très belles, il y a des très jolies scènes avec la petite fille, voilà ce qu'on pourrait en garder. Le genou d'Aed de Nadav Lapine, oui, nous l'avons reçu la semaine dernière, mais rappelez qu'à travers ce qui ressemble à un micro-événement, la signature d'un formulaire, c'est un cri de révolte contre son pays, Israël. Le traitement de ses artistes, un cri d'amour aussi pour une mère disparue, c'est un film audacieux, furieux, fiévreux, comme cette caméra qui respire, virevolte avec son personnage. Un autoportrait du cinéaste, incarné par un sacré comédien qui avait arrêté le cinéma pour se consacrer à la chorégraphie, et qui s'appelle Avshalom Polak.
C'est bien de voir des films rugueux.
Ouais. Et deux docs pour terminer, on va dire, Laurent, qu'il y a doc et doc. D'abord, il y a celui-là, l'affaire collective d'Alexander Nano. Alors ça, c'est après le tragique incendie du collectif Club Discothèque de Bucarest le 30 octobre 2015, qui avait fait 64 victimes dans les hôpitaux à suite de leurs blessures. Suite au témoignage d'un médecin, une équipe de journalistes d'investigation de la Gazette des Sports passe à l'action pour dénoncer la corruption massive du système. Oui, il s'agit bien d'une affaire d'État, un vrai doc d'investigation dans un style direct, Laurent.
Oui, alors on adore ici en général le cinéma roumain, le cinéma de fiction roumain, mais il est tellement peu de fiction, le cinéma roumain, que effectivement on a l'impression à chaque fois de voir un portrait de la Roumanie actuelle. Or, ce documentaire pourrait être un film de fiction, parce que ce qu'il raconte est dingue. Enfin, ce que vous venez de raconter est absolument incroyable. C'est un quotidien, tout part d'un quotidien sportif, alors qu'il s'agit d'un fait divers et qui devrait concerner la presse nationale, mais elle s'en fiche totalement. Et puis il y a une deuxième partie où effectivement on voit une sorte de héros, de super-héros, qui est le ministre de la Justice, le ministre de la Santé, pardonnez-moi, qui est une sorte de chevalier blanc de l'anticorruption, qui se démène, qui se débat, et la caméra le suit en permanence. Ça pourrait être une sorte de Robert Redford dans un Polak, par exemple, comme ça, au hasard. Ça, c'est très 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 étonnant. Et du coup, c'est un beau travail documentaire, mais qui est en plein dans de la fiction roumaine. C'est pour ça qu'on adore effectivement cette affaire collective d'Alexandre Nano.
Et puis, il y a ce doc-là, beaucoup plus classique dans sa facture, c'est l'État du Texas contre Melissa de Sabrina Van Tassel. Pourtant, l'histoire est folle. Melissa Lucio est la première femme hispano-américaine condamnée à mort au Texas, accusée d'avoir tué sa fille de 2 ans. Cette mère pauvre et droguée coche effectivement toutes les cases de la coupable idéale. La réalisatrice va remonter le fil de sa vie, témoignage posé à l'appui, la mère, les sœurs, les enfants, l'avocate. Elle décrit toutes les erreurs du dossier, le racisme du système judiciaire et en même temps que le traitement des justiciables pauvres. Mais c'est trop classique.
Oui, alors il y a une seule chose, c'est que en France, il semblerait que certains, dans cette période présidentielle, voudraient inaugurer l'idée, comme aux États-Unis, d'élire les juges. Je leur suggère d'aller voir ce film. Oui. Je crois qu'on en est vacciné à vie.
Oui, c'est vrai. Exactement, ça c'est un très bon point. On va finir juste par deux festivals très vite, de l'écrit à l'écran, Laurent.
Montélimar, Le Teil, du jeudi 23 au 29 septembre, c'est de l'écrit à l'écran, effectivement, qui fête ses 10 ans. Il y aura un hommage à Tavernier, Ariane Ascaride et Maëlys de Kerangal en seront aussi les invités. On y verra en avant-première le film de Xavier Giannoli, Illusion perdue. Bref, c'est un beau festival qui conjugue l'écrit et l'écran, comme son nom l'indique, du 23 au 29 septembre.
Le cinéma comme il va au Centre Pompidou, avec les Cahiers du cinéma jusqu'au 26 septembre, 11 séquences, et notamment Mémorial d'Api Chapong, Veracetacool, Compartiment numéro 6 qu'on a adoré à Cannes, Géo Kosmanen. Voilà, et on va rappeler toutes les productions littéraires autour de Dune.
On va offrir à Fabien Leroy la version 2021 de Tout sur Dune. L'Atalante et Léa sont les deux éditeurs. Il l'avait dans la version un peu réduite. Là, c'est 304 pages. Hein. Ça pèse le poids d'un âne mort.
Mais
il y a tout sur Dune, absolument. Là, je crois qu'on ne peut pas ne pas dire qu'il y a tout. Et il semblerait même qu'il y ait un certain M. Gage qui écrive des articles et des entretiens dans ce MOOC. C'est dire s'il est complet.
D'excellentes plumes.
Plus le point. Et puis la réédition, bien sûr, chez Robert Laffont. Merci à la réalisation. Laurent Thomas, Claire Destac, en la préparation Christophe Magère, tandis que la supervision musicale est signée Thierry Dupin. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
Fabien Leroy, Philippe Gage. Au revoir.